Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Celle dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Les gars, non, ça y est, non. C'est que nous n'avons pas de temps de temps.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le Japon vient de connaître un événement politique majeur à la mi-septembre. Les conservateurs dominants, qui ont occupé le pouvoir presque continuellement depuis la défaite du pays en 1945, en ont été brutalement évincés lors des élections législatives qui les ont littéralement ratiboisés et qui ont porté au pouvoir le Parti démocrate, associé marginalement au petit parti socialiste. Les électeurs désabusés ont ainsi signifié son congé à tout un personnel politique qui se partageait les clés de l'exécutif depuis plus de 60 ans. Le système, quand on l'observait sur place, fonctionnait à partir d'un équilibre spécifique entre d'un côté une constitution fortement inspirée du modèle occidental, notamment américain, et d'autre part la perpétuation de liens quasi féodaux avec la population, les sièges parlementaires étant souvent transmis de génération en génération à l'intérieur des mêmes familles. C'est cette dialectique originale sur la longue durée entre tradition et modernité propre au modèle politique japonais que nous allons éclairer aujourd'hui pour mieux prendre la mesure, dimension et éventuellement limite de ce changement de pouvoir à Tokyo. Nous allons le faire avec Jean-Marie Buissou, directeur de recherche au CERI, le Centre d'études internationales de Sciences Po, qui est un excellent connaisseur du Japon, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Jean-Marie Bouissou, bonjour.
Bonjour.
Nous venons d'entendre Umekichi, que j'ai choisi de vous faire écouter parce qu'elle incarne d'une certaine façon, dans l'ordre musical, une forme de syncrétisme. C'est une chanteuse contemporaine de folk et de pop musique, mais qui joue en même temps du shamisen. Vous savez, c'est l'instrument traditionnel japonais qui souhaite par là faire revivre la musique shamisen de la période Edo qui a précédé l'ouverture du Japon.
Oui, elle n'est pas la seule, c'est une mode assez répandue. Et ça me fait penser à une chose. Vous savez, les trois étoiles de Tokyo, Michelin désigné pour trois étoiles, notamment deux restaurants japonais traditionnels qui font du sushi. Mais ils font une forme de sushi très particulière, qu'est-ce qu'on appelle le Edo sushi. C'est-à-dire qu'ils le font avec les techniques qui existaient à l'époque de Edo, et ils ne mettent aucun poisson qu'on ne mangeait pas à l'époque de Edo. Et leur poisson ne sort pas du frigo, leur poisson est à température ambiante. Parce qu'à l'époque de Edo, c'était comme ça qu'on le servait.
Il y avait tout de même du fugu, ce poisson si dangereux.
Alors le fugu, on ne le mange pas dans les sushis.
Nous allons parler du Japon à partir de cet événement qui constitue à la fois un brutal changement et aussi une sorte de mystère, c'est-à-dire l'accès au pouvoir d'Hatoyama et des siens, qui est tantôt décrit, j'étais au Japon il y a quelques semaines, tantôt décrit comme quelque chose d'absolument bouleversant et tantôt comme la perpétuation d'une tradition sous l'apparence de la diversité.
C'est exactement l'un et l'autre. Et donc, Hatoyama, il incarne une figure que les Japonais adorent, c'est-à-dire ça change, mais en gardant quelque chose du passé.
Donc on est au cœur de la problématique de cette émission, tradition et modernité.
Absolument, Hatoyama du passé, il a le fait qu'il descend d'une très vieille dynastie politique, puisque son grand-père était déjà un des personnages très importants de la vie politique dans les années 1930, qu'il a été premier ministre au milieu des années 50. Et d'un autre côté, Hatoyama a introduit réellement une vraie rupture. Par exemple, il veut rompre absolument avec un État dominé par la bureaucratie. C'est aussi une vieille tradition, l'État dominé par la bureaucratie. Ça remonte à la période Meiji. Et dès les premiers jours, il a engagé un bras de fer avec les hauts fonctionnaires.
Il représente en même temps une autre tradition, celle la plus moderne, puisque c'est sa mère qui est elle-même l'héritière de puissante firme de fabricants de pneus, n'est-ce pas, Bridgestone?
Oui, pour ne pas le nommer.
Pour faire de la publicité pour Bridgestone ici, je ne serais pas puni. Qui lui a permis d'être très riche et donc de faire facilement de la politique.
Oui, mais ça au Japon, c'était une condition sine qua non quand on voulait faire de la politique chez les conservateurs. Il fallait avoir de l'argent. Si on n'avait pas de fortune, il fallait se débrouiller pour en trouver.
Mais c'est toujours vrai apparemment après le brusque tremblement de terre auquel on a assisté.
Alors c'est vrai, Hatoyama, donc extrêmement bien pourvu, il est né avec une cuillère d'argent ou même de platine dans la bouche, mais ce n'est pas vrai de la plupart des élus démocrates aujourd'hui qui sont vraiment un personnel neuf. Ils sont vraiment un personnel neuf. Bien sûr, les manettes du parti sont tenues par de vieux chevaux de retour, à commencer par Hatoyama lui-même, mais il n'est pas le seul, qui viennent d'ailleurs de l'ancien camp conservateur. Derrière, il y a toute une nouvelle génération des gens qui viennent de la société civile, des gens qui viennent des médias, des gens qui ont été portés par une vague absolument extraordinaire, qui apportent un esprit neuf et un sang neuf, ça on ne peut pas en douter.
Beaucoup de vieux crocodiles de la politique ont vraiment mordu la poussière, si je peux avoir cette image probablement malheureuse.
Oui, certains ont été battus par de jeunes femmes qui n'avaient aucun nom, qui avaient une petite réputation médiatique, qui étaient vraiment des novices en politique, qui sont entrés en politique 18 mois avant des élections.
Je voudrais citer une phrase d'un article qui a frappé un article de Hatoyama qui s'appelle tout simplement « Ma philosophie politique ». Il a fait paraître dans un journal américain et où il y a une phrase qui mérite d'être citée, me semble-t-il. « Nous devons construire des politiques qui régénèrent les liens entre les gens, qui prennent mieux en compte la nature et l'environnement, qui reconstituent les systèmes de solidarité et de bien-être, qui assurent une meilleure éducation et une prise en charge des enfants et qui se tournent vers les inégalités de richesse. » Un social-démocrate européen ne dirait pas mieux.
Un social-démocrate européen ne dirait pas mieux, et même sur certaines mesures, Olivier de Besançon ne dirait pas mieux, puisque dans le programme des démocrates, il y a augmenté le SMIC, enfin le salaire minimum japonais, de 40%.
Vous proposez d'envoyer Olivier Besançon aux Japonais?
En tout cas, sur certains points, le programme des démocrates est effectivement assez décoiffant.
Ils vont répondre à leurs promesses?
Ça, personne ne peut le dire à l'heure actuelle.
Nous en venons maintenant alors au passé pour comprendre comment a pu se forger ce dialogue, cette dialectique entre tradition et modernité. Il y a un regard qui est un regard fait de clichés, nourri de lieux communs, le Japon terre de contraste, comme on disait autrefois pour les documentaires de la salle Pleyel. J'ai déniché, j'ai débusqué une curieuse archive qui remonte à la radio de Vichy sous l'occupation. Le 22 mai 1944, un speaker, un producteur inconnu, dit ce qu'il pense du Japon du jour et du Japon de la nuit.
Si vous allez au Japon, madame, allez-y aussi au mont Miyara. Mais allez-y en chantant la complainte de la poétesse Shio.
Mon petit pêcheur de libellule, parti aujourd'hui, mais où?
Mais le Japon, c'est aussi d'immenses immeubles de granit blanc.
Ce sont des avenues rectilignes, où courent des taxis fous. Ce sont des bureaux inondés de soleil, où un cerveau commande à des navires qui filent sur la mer, chargés de matières premières, d'hommes et d'armes. Le téléphone crépite, une horloge géante donne l'heure.
Ici, c'est le Japon, mais c'est aussi l'Europe.
C'est la vie trépidante.
Mais attendez donc le soir.
Le soir, l'homme des maisons de verre se pare de son kimono. De l'encolure jusqu'à la pointe des pieds, le kimono bariolé enveloppe les Japonais comme un plumage. Et c'est drapé de son kimono que le Japonais ira devant les tablettes des aïeux, prier pour sa famille et pour son empereur.
Il prie, le Japonais, selon le conseil du poète. Le Japon... terre des dieux. Au Japon, l'homme n'a pas besoin de prière, car le sol même y est divin.
Ça, c'est de la radio, Jean-Marie Bouissou.
Oui, c'est de la radio de quelqu'un qui ne connaissait pas extrêmement bien la tradition japonaise, mais c'est de la radio.
Il était à Vichy.
Oui. Japon, terre des dieux. Japon, terre des dieux. C'est assez amusant d'entendre ça, parce que, pour faire le lien avec le Japon d'aujourd'hui, un des prédécesseurs de Hatoyama, M. Mori, qui a été Premier ministre en 2000-2001, et qui a laissé la réputation d'être le Premier ministre le plus gaffeur de toute l'histoire du PLD, en tout cas des conservateurs, a vu sa cote de popularité dégringoler d'un seul coup. Elle n'était déjà pas élevée quand il a pris le pouvoir, mais elle a dégringolé d'un seul coup quand il a dit ces mots-là. Il a dit, au cours d'une réunion du lobby Shinto, du lobby des prêtres Shinto, « N'oublions jamais que le Japon est la terre des dieux, dont l'empereur est le pilier central. » Tous les journaux ont dit « Mais d'où sort ce dinosaure ?» Alors ça montre bien deux choses. Ça montre bien que la tradition, elle était très présente encore dans le cerveau de M. Mori, qui est quand même né qu'en 1942, si mes souvenirs sont exacts. Donc M. Mori n'était pas quand même une momie. Et il y croyait vraiment. Et en même temps, ça a paru d'une incongruité totale. Enfin, en tout cas, qu'on le dise en public. Qu'on le pense en privé, c'est autre chose.
Vous avez remarqué aussi que notre homme de radio parle de l'encolure des Japonais.
L'encolure, oui. Et du kimono drapé. Ça prouve qu'il n'a jamais vu une Japonaise dans un kimono, car elle est tout sauf drapée.
Alors j'en viens à une question importante en termes historiques. C'est savoir ce que la révolution Meiji, on nous apprenait dans nos manuels que c'était une brusque rupture du Japon refermé sur lui-même et forcé de s'ouvrir par les Occidentaux et donc de concilier sa tradition féodale, notamment avec une modernité au moins apparente. Est-ce que ce n'est pas un schéma un peu caricatural? Est-ce qu'il n'y a pas eu auparavant une modernisation du Japon dont on a pris conscience peu à peu?
Ce qui est très intéressant, et que peut-être tous ceux qui nous écoutent ne savent pas, c'est que le Japon est resté un pays fermé pendant 250 années. C'est-à-dire qu'à peu près du début du XVIIe jusqu'au milieu du XIXe, ce pays était fermé. On ne sortait pas, aucun Japonais n'était autorisé à sortir, et aucun étranger n'était autorisé en principe de mettre le pied sur l'archipel. Et le Japon a été figé. Imaginez-vous qu'en 1853, au Japon, il n'y a pas de machine à vapeur. Les Japonais savent comment ça marche, il n'y a pas de problème pour la technologie, ils la connaissent. Mais le régime interdit l'utilisation des mécaniques pour la production des biens. Donc on est dans un pays qui a voulu arrêter le temps. Le régime a voulu arrêter le temps. Il n'y est pas parvenu, bien entendu, et il y a des germes de modernité importants au Japon, mais c'est quand même une expérience historique absolument unique. C'est ça l'époque de Edo dont on parlait au début, c'est ce Japon-là. Et en 1853 arrivent les Occidentaux, plus précisément les canonnières du Commodore Perry, qui obligent le Japon à se rouvrir au monde, et plus précisément au commerce. C'est ça qui intéressait les Américains et les autres Occidentaux. Et les Japonais vont réagir par un changement de régime radical. Meiji, qu'on n'appelle pas la révolution de Meiji, mais la restauration de Meiji, ce qui en soi est tout un programme. Pour changer, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière à l'époque où l'empereur gouvernait.
Oui, parce qu'il faut expliquer que c'est assez récent. Si l'on regarde la longue durée, le pouvoir du shogun, une sorte de maire du palais.
Alors, le Japon, effectivement, des Tokugawa, était dans la réalité gouverné par le shogun, qui résidait à Edo, c'est-à-dire aujourd'hui Tokyo, et l'empereur était toujours dans son palais de Kyoto, mais avec un pouvoir qui était uniquement symbolique. Et tout d'un coup, ceux qui ont voulu moderniser le Japon se sont ralliés autour du cri « Restaurons l'empereur !» Rendons le pouvoir à celui qui est légitime. Et c'était donc une façon extraordinaire de tout changer en se référant au passé. À Toyama, c'est ça aussi, quoi. Et par conséquent, on a modernisé le Japon. Mais modernisé le Japon avec une rapidité absolument extraordinaire. Ce pays dans lequel il n'y a pas de machine à vapeur, en 1853. Moins d'un demi-siècle après, en 1905, il est capable d'écraser la Russie, une grande puissance occidentale, dans une guerre hautement technologique, puisque la victoire définitive des Japonais, c'est une bataille navale.
Tsushima.
Et moins d'un siècle après, en 1940, 41, 42, il est capable de mener une guerre que... Il n'y a que deux pays qui savent la mener, une guerre aéronavale contre les Américains. La France, à l'époque, n'a pas de porte-avions. Les Anglais n'ont pas de porte-avions. Il n'y a que deux pays qui sont capables de mener des guerres aéronavales, les Japonais et les Américains. On n'a jamais vu un pays se moderniser aussi vite.
Formidable promptitude et dans la modernisation. Et en même temps, ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui, sous cette évolution, peut demeurer de continuité, qui explique d'ailleurs peut-être ce progrès même. C'est une progression qui a été largement gouvernée par l'État.
Alors, le rôle de l'État, oui et non. Au début, évidemment, personne d'autre ne pouvait contraindre le Japon à se moderniser, parce qu'il faut bien voir que ça n'a pas été tout seul. Une partie de la population ne suivait pas, ça a créé des inégalités, ça a bouleversé la société. Donc l'État a toujours été extrêmement présent. Par exemple, pour faire venir des experts occidentaux dans les années 1860, 70, 80 et les renvoyer chez eux après, pour investir et puis pour maintenir l'ordre. La modernisation a été une modernisation brutale. Des millions de paysans ont été brutalement dépossédés et arrachés à la campagne. Il fallait de la main-d'œuvre pour les usines. Il y a eu des mouvements sociaux. Le gouvernement a fait ce qu'il fallait pour les casser. Mais en même temps, le gouvernement a assez vite rendu la main au secteur privé. La plupart des unités de production que l'État avait créé dans les années 60, 70, 80, ont été repassés au privé dans les années 90. Et puis, parmi les nouveaux chevaliers d'industrie, par exemple le fondateur de Mitsubishi, c'était un samouraï.
Alors ça, c'est une grande question qu'on se pose. Que sont devenus les grands féodaux? Certains se sont repliés sur leur chagrin et leur nostalgie, et d'autres ont franchi le pas assez vite.
Alors, on a fait disparaître les féodaux. Les féodaux, c'était beaucoup plus qu'une aristocratie. Les samouraïs, ce n'était pas 0,5% de la population comme l'aristocratie française en 89. Les samouraïs représentaient, on n'a jamais très bien calculé, mais au moins 7 ou 8% de la population. Et puis du jour au lendemain, on les a dépouillés de leurs privilèges, de leurs sabres, de leur coiffure spéciale. Et on leur a dit « reconvertissez-vous ». Alors certains sont devenus effectivement des chevaliers d'industrie, d'autres ont créé les grandes universités japonaises. Les plus grandes universités japonaises ont été créées par d'anciens samouraïs.
D'ailleurs, à Toyama, dont nous parlions tout à l'heure, le nouveau chef du gouvernement japonais a parmi ses ancêtres des samouraïs et un président de la chambre haute à l'époque Meiji.
Oui, c'était son arrière-grand-père.
C'est symbolique.
La chambre des pères.
Métaphorique presque.
Oui, beaucoup de politiciens japonais, même encore dans les années 60, avaient des samouraïs dans leurs ancêtres. Donc faire disparaître cette classe a été quand même, pour l'État, quelque chose qui n'était pas très facile. Il a fallu là aussi user parfois de la force. Mais finalement, cette classe des samouraïs qui était, ne l'oublions pas, on pense toujours aux samouraïs comme des guerriers. Non, à l'époque de Edo, ce n'était plus des guerriers, c'était des administrateurs civils. On se battait plus, le Japon était tranquille.
La période d'Edo, c'est celle qui va du début du XVIIe siècle jusqu'à l'ouverture du Japon.
Le pays fermé. Et il n'y avait plus de guerre civile. Donc les guerriers, littéralement, n'avaient plus de raison d'être. Ils avaient perdu leur métier, mais ils étaient des administrateurs civils. Et donc, c'est ça qu'on voit assez mal, mais qui est central, je crois, pour la modernisation du Japon. La classe qui a modernisé le Japon, c'était des gens qui, à la fois, étaient guerriers dans l'âme, savaient se battre, et en même temps, savaient faire fonctionner les rouages de l'État. Ils avaient un sens de l'État, un sens de, j'allais pas dire du bien public, mais de ce qu'il voyait comme le bien public. Et c'est, je crois que la catégorie des samouraïs a été centrale dans la modernisation de l'État japonais.
Par rapport à l'émergence de cette bureaucratie dont on nous a dit que depuis l'ère Meiji, elle a joué un rôle essentiel dans le développement du régime japonais.
Alors la bureaucratie, elle a été pendant les 20 premières années du nouveau régime, du régime de Meiji, elle a été recrutée directement, bon, pas, on ne rentrait pas par concours, c'était l'empereur qui vous recrutait. Et effectivement, beaucoup d'anciens samouraïs se sont reconvertis là-dedans.
Il y a une question qu'on pose toujours quand on est nourri comme vous et moi de Max Weber, c'est le rôle de la religion dans ce développement. Est-ce qu'elle a été favorable ou pas ? Je voudrais vous faire entendre un texte de Léon Blum. Oui, Léon Blum, au début du XXe siècle, commentant un livre de Lafcadio Hearn. C'est un personnage, c'est curieux, Lafcadio Hearn, c'est un écrivain irlandais qui a pris la nationalité japonaise, un ami Pierre Loti, qui a beaucoup écrit sur le Japon, et notamment des essais qui ont eu du succès, le Japon inconnu en particulier, ou Japon spectral, la lumière vient de l'Orient, etc. C'est un texte lu dans Analyse spectrale de l'Occident sur France Culture en mars 1967.
On peut déjà considérer comme un fait important par lui-même qu'un homme de l'éducation et de la culture de Lafcadio Hearn, après des essais répétés de longues pérégrinations, est finalement élu le Japon comme lieu du monde où la vie est la plus heureuse et la plus douce. Mais la vérité est que, dans l'opinion de Hearn, la civilisation japonaise correspond à la doctrine religieuse la plus exacte et à l'idéal moral le plus élevé que l'humanité ait jamais connu. Ce qui cause principalement, selon lui, le malaise et l'insécurité où se débattent les civilisations occidentales, c'est le conflit entre les données de la science et les enseignements de la religion. Si nos sociétés, policées en apparence, reposent à la fois sur l'abus de la force et sur l'excès de la misère, si les cannibales de la civilisation sont inconsciemment plus cruels que ceux de la sauvagerie, c'est par l'insuffisance et l'inefficacité de la morale chrétienne. Or, Lafcadio Hearn estime que, de toutes les religions connues, les vieilles religions traditionnelles du Japon, le shintoïsme et le bouddhisme, sont les seuls dont les doctrines fondamentales se trouvent en complet accord avec la pensée moderne. D'autre part, pour les fidèles de Shinto et de Bouddha, cette première conception du monde, conforme aux données de la science, se prolonge vers un idéal métaphysique et moral qui exalte toutes les vertus vraiment sociales de l'homme, la loyauté, le désintéressement, l'altruisme, l'esprit de sacrifice et d'abnégation.
Alors, est-ce que c'est pertinent ou non ce propos d'un Irlandais vu par un socialiste français, un Irlandais qui a épousé la fille d'un samouraï, Lafcadio Hearn ?
Je crois qu'il y a assez peu de commentaires pertinents quand on parle de la religion japonaise.
Pourquoi ?
Parce qu'on la compare toujours aux religions occidentales, ce qui est une erreur totale. Les Japonais ont beaucoup de religions, mais les Japonais n'ont pas de dieu. Le Japon, c'est assez bizarre, c'est un pays où les religions poussent comme des champignons, nouvelles religions prolifèrent. Et en même temps, les Japonais sont certainement le peuple le moins religieux de la planète, en ce sens qu'ils ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en un Dieu. Les Japonais croient en des rites, pratiquent des rites, croient qu'il faut aller à tel temple ou à tel temple, à telle occasion. Les étudiants vont au temple pour prier pour la réussite de leurs examens. Mais le Shinto n'a pas de Dieu, le bouddhisme n'a pas de Dieu. Le confucianisme, n'en parlons pas, c'est juste une philosophie. Par conséquent, je crois qu'il y a... Il y a une assez fausse conception. Et quand on dit les Japonais ont la religion la plus exacte, par exemple, et qu'on rattache une morale à cette religion, je crois qu'on se trompe pas mal.
Quand on nous dit que le régime militariste, dans les années 30 et jusqu'en 1945, a mobilisé en quelque sorte le shintoïsme comme religion d'État, est-ce que c'est faux ?
Alors, le shintoïsme a joué un rôle extrêmement important parce qu'il a servi de marqueur identitaire. Le shintoïsme, il faut bien voir qu'à l'époque de Edo, celle dont on a parlé, les dirigeants ne l'aimaient pas et les dirigeants favorisaient plutôt le bouddhisme. Et par conséquent, la restauration, ipso facto, a favorisé le Shinto, d'autant que le Shinto est lié à la mythologie impériale. L'empereur est censé être un kami, c'est-à-dire un esprit divin sous forme humaine.
Ce que vous appelez restauration, c'est...
La restauration de Meiji. Et par conséquent, on a refait du neuf avec du vieux. On a pris le Shinto, qui est une religion totalement primitive, un chamanisme, un animisme, et on en a fait la religion à laquelle tous les Japonais devaient sacrifier, c'est-à-dire les Japonais étaient tenus à l'époque de Meiji, bien que la constitution ait proclamé la liberté religieuse, ils étaient tenus néanmoins d'assister à certains rites, parce que c'était des rites nationaux. Aller au temple Shinto, c'est pas aller prier un dieu, c'est montrer qu'on est japonais. Mais ça a été extrêmement important pour la constitution de l'identité japonaise. Le Shinto, c'est une religion nationale, en ce sens qu'il ne viendrait à l'idée d'aucun japonais d'aller prêcher le Shinto où que ce soit.
D'ailleurs, le célèbre sanctuaire Yasukuni est un sanctuaire Shinto à Tokyo. Oui. Il est fameux parce que la question se posait à chaque fois qu'il y avait un nouveau Premier ministre de savoir s'il allait ou non célébrer les ancêtres, et en particulier ceux qui avaient été punis après 1945 au sanctuaire de Yasukuni.
Oui, le Yasukuni, c'est le sanctuaire de ceux qui sont morts au service de l'empereur. Depuis les troubles civils qui ont précédé la restauration de Meiji, entre l'arrivée des Américains et la restauration de Meiji, il y a une 15 ans, disons, de guerre civile de basse intensité entre les partisans du shogunat et les partisans de la restauration impériale.
D'ailleurs, le nouveau Premier ministre Hatoyama a dit aussitôt, dès son accession au pouvoir, que je n'irai pas au sanctuaire, contrairement à ses prédécesseurs, notamment au flamboyant Koizumi, qui a été Premier ministre pendant 5 ans, assez populiste, et qui, lui, avait marqué cette continuité par rapport à la rupture qu'incarne Hatoyama.
Oui, le Yasukuni, on le sait bien en Occident, c'est un objet de polémique intense. Les morts au service de l'empereur, ils figurent en fait simplement sous forme de noms inscrits dans un cahier. Hein. Il y a le livre des âmes au Yasukuni, on inscrit les noms de ceux qui sont morts au service de l'empereur.
Et il y a un musée voisin où il y a les photos de tous les grands hommes.
Il y a un musée voisin où, effectivement, on peut dire que le musée est entièrement destiné à justifier les guerres menées par le Japon en Asie.
Muséographie désuète, mais détermination dans la démonstration.
Absolument. Yasukuni, c'est un cas intéressant parce que ça lie absolument autour de la personne impériale tous ceux qui sont morts pour une certaine idée du Japon que l'empereur incarnait. Mais on n'y met plus personne. On n'y met plus personne depuis 1952. Enfin, peut-être qu'on n'y inscrit plus aucun nom. Mais la tradition subsiste. Aujourd'hui, les soldats des forces d'autodéfense qui meurent, toujours d'accident, parce que les forces d'autodéfense ne sont présentes sur aucun front actif, quand un officier ou un homme des forces d'autodéfense se meurt, par exemple, dans un accident, eh bien, son nom est bel et bien inscrit dans un temple. C'est-à-dire, cette inscription, pour le dire très simplement, transforme le défunt en kami, en esprit divin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une jurisprudence extrêmement célèbre où une femme dont le mari était officier des forces de défense, il est mort, on a inscrit son nom dans un temple ad hoc. Elle était chrétienne, elle a attaqué l'État en disant qu'on avait violé sa liberté de conscience, qu'elle ne voulait pas que son mari fût transformé en kami parce qu'elle était chrétienne, et elle a perdu en Cour suprême. Elle a perdu en Cour suprême avec cet argument-ci. La plaignante, certes, elle a droit à sa liberté de conscience, mais elle doit aussi reconnaître à la nation la liberté de célébrer les coutumes.
La tradition. Oui. Tout ça est compliqué. On comprend que les Occidentaux aient volontiers plaqué leur schéma sur le Japon. Ce sera une autre émission. Les clichés français, anglais ou américains sur l'archipel nippon. Mais tout de même, il faut que j'en donne une petite idée. Voici un texte d'un auteur qui a eu beaucoup de succès, qui est Pierre Loti, 1887, Madame Chrysanthème. Texte lu par Jean-Pierre Leroux dans Analyse spectrale de l'Occident sur France Culture en mars 1967.
Les rues sont pleines de monde. La foule passe comme un flot rieur, capricieux, lent, inégal, mais s'écoule tout entière dans la même direction vers un but unique. Il en sort un bourdonnement immense, mais cependant léger, où dominent le rire et les formules polies que l'on échange à voix basse. Des lanternes et des lanternes. De ma vie, je n'en avais tant vu, ni de si bariolées, ni de si compliquées, ni de si extraordinaires. Nous suivons comme en dérive dans ce flot humain, comme entraînés par lui. Il y a des bandes de femmes de tous les âges, en toilettes parées, surtout des mousmes innombrables, ayant dans les cheveux des piquets de fleurs ou, à la manière d'Oyuki, des pompons d'argent. Petits minois chiffonnés, petits yeux bridés de chat naissant, joues rondelettes et palottes, ballant un peu aux abords des lèvres entrouvertes. Gentilles quand même, ces petites nippones à force d'enfantillage et de sourire. Du côté des hommes, beaucoup de chapeaux melons, ajoutés pour plus de pompe à la longue robe nationale et complétant bien ces laideurs gaies de singes savants. Ils tiennent à la main des branches, des arbustes entiers, quelquefois d'où pendent mêlés au feuillage les plus bizarres de toutes les lanternes, ayant des formes de diablotins ou d'oiseaux. À mesure que nous avançons dans la direction de ce temple, les rues deviennent plus encombrées, plus bruyantes. Il y a maintenant, tout le long des maisons, des étalages sans fin sur des tréteaux, des bonbons de toutes couleurs, des jouets, des branches fleuries, des bouquets, des masques surtout. en voici de pleines caisses, de pleines charrettes. Le plus répandu est celui qui représente le museau blême et rusé, contracté en rictus de mort, les grandes oreilles droites et les dents pointues du renard blanc, consacré au dieu du riz.
Jean-Marie Bouissou, cliché, pas cliché, nous sommes à Nagasaki.
Oui, pas cliché, les lanternes, les masques de renard blanc, les étalages des colporteurs pendant les fêtes avec les bonbons bon marché, les petits jouets. Vous pouvez voir ça tout le temps aujourd'hui encore dans le Japon contemporain. Près de l'université Waseda, qui est mon home quand je vais au Japon, il y a les fêtes de quartier et elles sont encore exactement sur ce schéma-là. Les bandes de femmes, ce que Loti appelle les mousmets, tout ça est encore aujourd'hui extrêmement conservé et ça fait le dynamisme, la force de ce pays.
Et le physique des Japonais ?
Le physique des Japonais, j'ai noté la laideur gaie de singe savant. C'est quand même une drôle de façon qu'a Loti de qualifier les hommes japonais qui l'intéressaient d'ailleurs nettement moins que les femmes. Les Japonais en ont beaucoup souffert. C'est un cliché qui remonte très loin, puisque les chroniques chinoises du 2e siècle avant Jésus-Christ, quand elles parlent des Japonais, parlent des nains. Le Japon, c'est le pays des nains.
Alors aujourd'hui, ils sont très fiers d'être très grands, en particulier dans les équipes de basketball.
Dans les équipes de basket, et puis les Japonais mesurent presque chaque année la taille des nouvelles générations. La taille, je ne sais pas si c'est les garçons à la fin du collège, et ils sont très fiers. La taille des Japonais moyenne a augmenté de plus de 10 cm depuis 1945.
Modernité, s'il en est, effet des changements de nourriture.
Et aujourd'hui, oui, probablement, et aujourd'hui, Lotus aurait été probablement ravi de voir les très longues jambes de gazelle des Japonaises.
Ayons cette pensée pour Loti à titre posthume et quittons-le, si vous le voulez bien, Jean-Marie Bouissou, pour revenir à la politique et à la question de savoir comment s'est tricotée en quelque sorte la tradition féodale avec des institutions largement plaquées de l'extérieur. De ce point de vue-là, il y a un moment essentiel, c'est la constitution de 1889 qui est tout à fait curieuse à rappeler.
Oui, alors la constitution de 89, elle est calquée en fait assez largement sur le modèle prussien. Elle crée des assemblées élues, mais à l'époque, les assemblées élues sont élues avec un suffrage censitaire extrêmement strict. Et aux premières élections, ils ne votent que quelques dizaines de milliers de personnes.
C'est plus Guizot que Jules Ferry, en somme.
Oui. Mais les Japonais viendront vite au suffrage universel, puisque en 1925, ils seront passés au suffrage universel. Donc
les femmes,
ça change. Ah non, contre du suffrage universel avant la guerre, c'est le suffrage universel masculin.
Je vous le faisais préciser.
Alors, au centre de cette constitution, il y a l'empereur. L'empereur qui est sacré, qui concentre la totalité du pouvoir exécutif, qui nomme les fonctionnaires, par exemple, et qui détermine la politique du pays. Et l'empereur est libre, en principe, de choisir qui il veut, de composer le gouvernement à son gré. Mais il doit composer avec une assemblée. Et évidemment, l'assemblée sera de plus en plus rétive. Et il va donc s'établir une espèce d'équilibre, l'empereur se résignant finalement à choisir comme premier ministre le chef du parti qui a gagné les élections. Et on arrivera à un fonctionnement qui ressemble beaucoup à de la monarchie constitutionnelle, sous le successeur de l'empereur Meiji, l'empereur Taisho, qui règne de 1912 à 1923. Et on parle de la démocratie de Taisho.
Ah, je voudrais vous citer un publiciste japonais qui écrivait en 1917, Ozaki Yukio, « Les coutumes et autres usages des temps féodaux sont si profondément imprimés dans l'esprit des hommes d'ici que l'idée même de parti politique, lorsqu'elle pénètre le cerveau de nos compatriotes, est influencée par des notions féodales. » Voilà pourquoi même les partis politiques, qui devraient être fondés et dissous en vertu de principes et de visions politiques, sont en réalité affaires de relations et de sentiments personnels, et les liens entre chef et membre d'un parti restent en tout point semblables à ceux qui existaient entre seigneur féodal et vassaux. C'est un japonais qui nous le dit.
On peut trouver des textes qui ressemblent énormément à ça et qui ont encore été écrits jusque dans les années 70 sur la démocratie japonaise. Bon, c'est vrai quand même, et je crois qu'une des raisons... Une des raisons structurelles de ce type de mentalité, ça a été pendant longtemps, c'est-à-dire en fait jusqu'en 1996, un mode de scrutin très particulier.
Ah oui, expliquez-nous ça, c'est un effet très spécial.
Bon, pour faire bref, dans chaque circonscription, on pouvait élire 2, 3, 4 ou 5 députés, ça dépendait. Les plus grosses circonscriptions avaient jusqu'à 5 députés. Alors, mais chaque électeur ne pouvait voter que pour un nom. En particulier, dans le cas du parti dominant, qui était le parti libéral-démocrate, mais peu importe, dans le cadre du parti conservateur dominant, plusieurs candidats du parti, évidemment, se présentaient dans chaque circonscription. Dans une circonscription à 5 chaises, vous aviez fréquemment 3 candidats du Parti libéral-démocrate. Ce qui fait que l'électeur devait choisir non pas un parti, bien sûr, il pouvait choisir un parti, il choisissait un parti, mais il devait choisir un homme à l'intérieur de ce parti. Un homme avec lequel il avait des liens importants. Alors effectivement, là-dessus, on proliférait les factions, c'est-à-dire que chaque candidat était lié à, disons, un éléphant du parti. Il faisait partie d'une écurie à l'intérieur du parti qui lui finançait sa campagne ou qui l'aidait. Mais ce qui était important, c'est qu'au fond, ce qui était décisif pour gagner, c'était moins d'être le candidat du Parti libéral-démocrate que d'être le candidat ou un des candidats du Parti libéral-démocrate qui s'est choisi par le plus grand nombre d'électeurs. Il fallait des liens particuliers, privés, avec les électeurs.
Il fallait en même temps des candidats qui ne fussent pas de la même faction, parce que s'il y en avait 2 ou 3 de la même faction, les voix risquaient de se disperser et ils n'auraient pas été élus. C'était ça la subtilité du système.
Alors effectivement, le système demandait beaucoup, beaucoup d'ajustements. Et puisque vous évoquez les factions, à l'intérieur du parti, ça fonctionnait de la même manière. C'est-à-dire que le parti était divisé, disons, ordinairement en 5 grandes factions. Et chacune de ces factions avait un patron, évidemment. Et les députés, les sénateurs libéraux-démocrates étaient liés à leur chef de faction, effectivement, par une fidélité d'ordre personnel.
Et là encore, s'ils étaient trop nombreux, les derniers de la liste n'avaient aucune chance de devenir secrétaire d'État ou ministre. Et il fallait par conséquent se rattacher à une faction qui n'ait pas trop de membres. C'était encore une sorte de réajustement. Alors, si ce n'est pas de la féodalité, tout ça, alors qu'est-ce que c'est?
Oui, mais c'était à la fois de la féodalité, mais pour les électeurs, c'était aussi du clientélisme bien compris. C'est-à-dire que le député qui était leur patron, achetait leur fidélité. Bien sûr, il fallait un certain crédit, mais surtout, il fallait énormément d'argent. Moi, j'ai vu fonctionner ces machines politiques. Au moment des élections, l'argent part dans tous les sens. L'argent part dans tous les sens. Dans des boîtes à chaussures, dans des billets qu'on coupe en deux, vous savez exactement. Et puis, on vous donne la deuxième moitié après le scrutin.
Même M. Dassault n'est pas allé jusque-là.
Je ne prononcerai pas sur le cas de M. Dassault. En tout cas, ces mœurs étaient encore tout à fait florissantes dans les années 70 et dans les années 80, quand j'ai fait mes enquêtes sur les machines politiques au Japon, il y avait encore pas mal de ça.
Je ne vais pas préciser, je parlais de Marcel Dassault, naturellement. Oui, il y avait encore pas mal de ça. Moi, j'ai eu le privilège de suivre en 1966, comme étudiant girovague, une campagne électorale dans le Kyushu, à Beppu. Un marchand de voitures d'occasion qui se présentait. J'ai vu la place que cet argent pouvait avoir dans cette campagne. Chaque fois qu'il allait rendre visite à un banquet d'électrices, par exemple, il allait discrètement à la cuisine pour payer le cuisinier. Et quand il est dans une maison pour saluer les électeurs, il mettait un peu d'argent derrière l'hôtel de la famille. C'était très, très étonnant. C'est des petites PME, du coup, parce qu'il fallait qu'ils touchent beaucoup d'argent aussi.
On calculait les prix. Après chaque élection, les journaux disaient « Cette année, pour être élu, il fallait en moyenne 100 millions d'yens, 200 millions d'yens. » Ça commençait à 100 millions d'yens dans les années 60. Dans les années, début des années 90, la presse disait qu'on ne pouvait pas être élu si on n'avait pas 500 millions d'yens à mettre sur la table.
On a essayé de limiter les dépenses, toujours une des façons de s'efforcer de...
Alors oui, ça a quand même beaucoup changé. Ça a quand même beaucoup changé. Aujourd'hui, les lois sur le financement politique se sont énormément durcies et un certain nombre de têtes assez importantes sont tombées. La corruption n'a pas disparu, mais elle emprunte maintenant d'autres voies. Et le gouvernement Hatoyama, puisqu'on a commencé avec ça, souhaite interdire purement et simplement toute contribution financière des entreprises aux politiciens. Et ça serait une véritable révolution aussi.
On s'éloignerait du modèle américain qui a tellement pesé, ça c'est la partie moderne si je puis dire, peut-être pas au meilleur sens du terme, de la vie politique japonaise. Et il faut se demander si la coupure de 1945 à cet égard a été importante dans cette dialectique de la tradition et de la modernité. Il faut y revenir à l'époque de MacArthur, parce que c'est vraiment le moment où les Américains ont essayé de plaquer un système européen, non pas une ouverture commerciale, mais plaquer un système politique européen sur le Japon défait. Et pour restituer la tonalité de ce moment-là, je vais vous faire entendre la déclaration d'Hirohito, qui était l'empereur, comme nous savons, et qui annonce le 15 août 1945, dans une intervention qui est la première de son règne, on ne connaissait pas sa voix auparavant, qui annonce la capitulation. Et vous allez me le traduire, si vous pouvez.
« 帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって、自局を収集せんと
C'est un japonais que vous comprenez, Jean-Marie Bouissou ?
Non, c'est un japonais que je ne comprends pas au mot à mot. C'est un japonais, comme les japonais rassemblés autour des postes de radio et du système de diffusion publique, les haut-parleurs dans les rues, n'ont pas compris ce que disait Hirohito au mot à mot. Ils en ont saisi le sens général parce que c'est une langue extraordinairement archaïque, écrit en japonais de l'empereur. C'est l'empereur au quotidien parlait une langue à peu près normale.
C'est comme si Sarkozy aujourd'hui parlait aux Français comme on faisait la chanson de Roland, c'est ça à peu près.
Exactement, oui.
C'est peu vraisemblable.
À peu près. Alors, Hirohito savait le faire et par conséquent, les Japonais ont saisi le sens général, c'est-à-dire que ça s'arrête. Et ce qui est intéressant dans la déclaration de Hirohito, c'est qu'à aucun moment il ne prononce le mot de défaite. Il ne dit pas « nous avons été vaincus ».
Qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit « l'ennemi a commencé à user d'une arme atroce ».
La bombe atomique.
La bombe atomique, bien sûr, qui met en danger la survie même de l'humanité. Et donc, dans un souci d'humanité, nous arrêtons la guerre. Pratiquement aucun responsable politique japonais dans les années 45-46, dans des discours, n'a prononcé le mot de défaite. C'était la cessation de la guerre, ce qui n'était pas du tout la même chose. Ce qui fait que les Japonais ont peut-être eu un peu de mal à intégrer qu'ils avaient vraiment été battus. Enfin, si, quand ils ont vu débarquer MacArthur et les Américains, ils avaient quand même bien compris.
MacArthur, c'est ce qu'on appelait le shogunat MacArthur, le général MacArthur, qui pendant plusieurs années a fermé une domination américaine, des troupes d'occupation jusqu'au début des années 50. C'est seulement au début des années 50 que le Japon est vraiment en paix par rapport aux États-Unis. Et alors, l'effort est précisément de plaquer la modernité sur la tradition, mais en même temps, assez vite, les relations internationales, le début de la guerre froide, amènent à introduire quelques tempéraments dans cet effort. Et du point de vue qui nous occupe, tradition et modernité dans le Japon politique, c'est une période intéressante.
Les Américains vont rester 7 ans. Il part en 52. Et MacArthur va en fait rester, lui, pratiquement 6 ans. Et quand MacArthur s'en va, d'ailleurs, il est acclamé. Des centaines de milliers de Japonais font la haie le long de la route que MacArthur emprunte pour aller à l'aéroport. Jamais une occupation n'a finalement été aussi bien vécue. Acclamer le proconsul qui, pendant 6 ans, vous a tordu les bras pour vous réformer, c'est quand même assez intéressant.
Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Le goût de la modernité chez les Japonais, la gratitude à l'égard du général occupant ?
MacArthur avait contenté tout le monde. À la gauche japonaise, il a donné la démocratie, la vraie liberté politique, la liberté syndicale. La gauche ne pouvait que lui être reconnaissante de ce qu'il avait fait. Et puis une constitution beaucoup plus démocratique.
Celle de 1947.
Mais finalement, il a aussi préservé le pouvoir de l'ancien personnel politique. Alors bien sûr, il avait été question de purger. Les Américains débarquent avec la volonté de faire ce qu'ils ont fait en Allemagne, c'est-à-dire la démilitarisation, puisqu'on pourrait dire la dénazification.
C'était une purge infinitésimale.
Au départ, non. Au départ, pendant 2 ans, les Américains ont arrêté beaucoup de monde, interrogé beaucoup de monde, tous ceux qui, la parole, par la pensée, par l'action, avaient contribué au militarisme. Enfin, au départ, les ambitions étaient très larges.
Et puis, du procès de Tokyo.
Alors, le procès de Tokyo a été un procès, comme chacun le sait, le procès des responsables, qui est en fait l'équivalent du procès de Nuremberg, a été de toute façon vicié à la base parce que les Américains avaient décidé qu'on ne toucherait pas à l'empereur. Ils ne touchaient pas à l'empereur parce que MacArthur avait dit « si l'empereur cautionne ce que je fais ou ne s'y oppose pas, il n'y aura pas de problème si vous m'obligez. » Parce qu'à Washington, il y avait un lobby, l'opinion publique attendait qu'on pende l'empereur comme Mussolini.
Comme criminel de guerre.
Mais MacArthur a dit « il me faut ici 2 millions d'hommes pendant 10 ans. » Et évidemment qu'il fallait ramener les boys à la maison, on a préféré l'empereur, qui effectivement a été extrêmement efficace dans ce rôle-là. Mais du coup, le procès de Tokyo a été vicié. Et les Américains, assez vite, sont revenus sur leurs intentions punitives concernant le Japon pour une raison très simple, c'est que la Chine avait pris feu, le communisme était aux portes, les armées russes étaient dans les îles du Nord, dans les petites îles du Nord, les îles Kouriles. Et les Américains craignaient la révolution communiste. Le parti communiste est très puissant, les syndicats étaient extraordinairement vigoureux. Et les Américains ont évidemment éprouvé le besoin de réutiliser l'ancien personnel politique. Et donc, bien sûr, on a pendu cette personne après le procès de Tokyo, mais tous ceux qui ont été condamnés à la prison à vie ont été amnistiés en 1952.
Très vite.
Tout le monde est sorti. Le personnel politique s'est en grande partie recyclé. Bon, le grand-père de M. Hatoyama,
le nouveau Premier ministre,
purgé par les Américains, c'est lui qui va être le premier premier ministre, le premier chef de gouvernement, sous l'étiquette du Parti libéral-démocrate, les conservateurs qui ont été battus il y a un mois.
On l'a empêché d'abord d'être premier ministre, mais après un peu de temps passé, il est devenu.
Bien sûr. Et dès 1957, pratiquement le successeur de Hatoyama sera M. Kishi, qui lui était un ministre des gouvernements militaristes, qui avait joué un rôle extrêmement important dans l'assujettissement de la Mandchourie, que les Américains avaient bouclé comme criminel de guerre, mais qu'ils ont relâché en 1948 sans procès. Et le petit-fils de M. Kishi, M. Abe, a été Premier ministre en 2007-2008.
Alors là, il y a une continuité également généalogique, si on peut dire. Oui. Cette constitution de 1947, elle est intéressante du point de vue du jeu politique entre les traditions historiques et les réalités contemporaines, parce qu'au système prussien, il substitue en fait un modèle américain, mais qui va s'adapter à la tradition japonaise. C'est-à-dire qu'il y a un Sénat, une Chambre des députés.
Un Sénat, une Chambre des députés et même des États. Ce qu'on appelle Ken, qu'on traduit souvent par préfecture au Japon, mais c'est une mauvaise traduction, ce sont des États où un gouverneur est élu au suffrage universel, comme un État américain, où la police est une police de la région, pourrait-on dire. Il y a énormément de choses. La démocratie locale au Japon est très vivace à cause de ça. Le maire, par exemple, il est élu au suffrage universel, indépendamment du conseil municipal. Mais du coup, ça recrée évidemment les liens personnels entre les électeurs et leur maire, par exemple.
Ambivalence, mais est-ce que ce n'est pas un fait démocratique? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose des États-Unis quand tu as un lien personnel?
Sauf qu'au Japon, les politiciens dépensent beaucoup d'argent, mais les politiciens américains dépensent beaucoup d'argent pour la com, je dirais, pour la communication, et les politiciens japonais dépensent quand même beaucoup d'argent pour des gratifications personnelles plus ou moins détournées, ou des gratifications à des groupes, à des petits villages, sous forme de travaux publics, etc.
Clientèle, en somme.
Clientélisme, c'est ce qu'on dit souvent.
Au sens de la Méditerranée du Sud ou de l'Est, ou au sens des anciens, des Romains.
En ce sens, c'est là qu'on peut dire que le système est resté féodal. Mais le clientélisme, encore une fois, c'est une structure politique qu'on retrouve évidemment en dehors du Japon. Sauf qu'au Japon, elle est quand même renforcée par l'importance vraiment qu'il y a dans les liens de fidélité personnelle. On voit encore aujourd'hui au Japon des gens qui votent pour tel ou tel nom, pour tel ou tel homme, parce qu'il est le descendant du seigneur local.
Alors il y a eu néanmoins des réactions qui ont beaucoup frappé en Occident, des protestations désespérées contre cette évolution démocratique ou quasi-démocratique du Japon. J'en pense en particulier à ce qu'on peut appeler l'affaire Mishima, ce grand écrivain qui avait failli avoir le prix Nobel et qui a fait, comme nous disons, harakiri, c'est-à-dire seppuku. Je voudrais que vous nous rappeliez ce qui s'est passé, parce que c'est très topique cet événement, à la fois son affirmation et cette protestation des Japonais moyens, et peut-être cette indifférence.
Alors, le grand écrivain, donc Mishima Yukio, au début des années 70, il a tenté un coup d'État, c'est-à-dire qu'il pénètre avec sa petite armée privée, si l'on peut dire, en fait, quelques dizaines de personnes qui jouaient au samouraï avec lui, pour le dire simplement, dans le quartier général des forces armées japonaises à Tokyo. Il prend en otage le général, il était le commandant des forces armées, et puis il sort sur le balcon et il appelle les soldats il leur fait un discours extrêmement enflammé, rappelant les valeurs du Japon traditionnel, disant « si vous, soldats, vous n'interrompez pas ce processus, vous ne vous dressez pas », c'était assez confus tout ça,
Japon est perdu. Je vous interromps, parce qu'avant de nous raconter la fin de l'histoire, je vais vous faire écouter notre archive qui précisément donne sa voix à entendre, et aussi, vous allez voir, une interview traduite de l'anglais en français.
On perçoit facilement les deux aspects contradictoires de la culture et du caractère japonais. Élégance et brutalité, deux traits de caractère parfois très imbriqués. Notre brutalité, je pense, est liée à notre intense émotivité. Elle n'est jamais automatique, systématique, comme chez les nazis. Je crois que notre brutalité trouve son origine dans la féminisation de l'apparence et que notre élégance résulte d'une tension latente. Parfois, nous sommes trop préoccupés par notre personnalité, notre goût pour l'élégance, notre sens de la beauté, voire notre penchant sadique. Quelquefois, cela nous lasse, et alors nous explosons pour nous libérer. Ainsi, après la guerre, cette brutalité a été totalement masquée, mais je crois que ce n'était qu'une dissimulation. D'ailleurs, je n'aime pas que la culture japonaise soit seulement représentée par les arrangements de fleurs, tel un symbole d'une culture dédiée à la paix. Nous avons gardé un fort esprit guerrier encore aujourd'hui.
Vous aviez l'air de comprendre, Jean-Marie Bouissou, ce que disait la foule en direction de Mishima sur son balcon un peu dérisoire.
Oui, c'est assez poignant parce qu'on entend effectivement deux choses. La voix de Mishima, un petit peu à l'arrière-plan, qui parle de la grandeur des Japonais. Et d'un autre côté, en bas, et Mishima parle en langage assez soutenu. Et en bas, les soldats lui crient à peu près « Casse-toi, connard qu'est-ce qu'il raconte ?» etc. Ça, c'était un fossé absolu entre lui et ceux qu'il rêvait d'eux, parce que je ne crois pas qu'il ait jamais pensé réussir quoi que ce soit, bien entendu, c'était un suicide, et ceux qu'il rêvait de soulever contre une modernisation qu'il traumatisait.
Avant son seppuku, avant Harakiri.
Oui, après, il rentre dans le bureau du général qu'il avait pris en otage, et se suicide, effectivement, dans la tradition.
Et les propos qu'il tient dans son interview, violence, tendresse, retour...
Violence et esthétisme. Là, je crois qu'on tient les deux bouts de la culture des classes supérieures japonaises, parce que la culture populaire serait encore autre chose. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, vous avez l'ikebana, vous avez les concours de poésie sous les cerisiers, vous avez les jardins, vous avez l'esthétisme, vous avez l'élégance. Et d'un autre côté, mais les mêmes, c'est les mêmes qui font des poèmes sous les cerisiers. Et qui, ensuite, se transforme en guerrier et le coupe les têtes et s'ouvre le ventre. Et les amiraux qui menaient la guerre technologique contre les Américains, la guerre aéronavale, quand ils se sont suicidés à la fin de la guerre, certains l'ont fait, ils l'ont fait dans la tradition. Ils l'ont fait en s'ouvrant le ventre. Donc là, je crois qu'on tient les deux choses.
Du plus moderne au plus traditionnel.
Du plus moderne au plus traditionnel. Et la tradition, du moins certaines formes de tradition, ont accompagné toute la modernité, l'ont soutenue, l'ont dynamisée, incontestablement.
On trouve plutôt dans le cinéma japonais le Japon dont rêvait Mishima, au fond Mizoguchi, Kurosawa.
Oui, le cinéma de l'époque de Mishima. Aujourd'hui, si vous regardez le cinéma japonais comme Miyazaki, c'est tout à fait différent. Je dirais... C'est mon opinion personnelle. Il n'y a plus de guerriers dans le Japon d'aujourd'hui.
La vraie rupture, si on vous suit, par rapport au Japon ancien, c'est vraiment les années 70 plutôt que les années de la guerre. Et une des manières de lire ça, c'est d'ailleurs soulever la question des rapports avec les États-Unis d'Amérique. Parce qu'en protestant contre l'article 9 qui interdit aux Japonais, quoi qu'il en soit, de faire la guerre, en souhaitant, comme c'est le cas d'Ayotama, rajeunir, modifier le traité avec les Américains, par exemple du côté de Okinawa, dont était par parenthèse originaire la chanteuse du
oui.
début,
oui.
Bouclé, bouclé. Oui.
Nous bouclons la boucle. Alors,
par là, il y a l'affirmation de cette modernité ou non?
Le tournant, c'est les années 90, la crise économique. Parce que la crise économique a obligé les Japonais à se dire que la modernité qu'ils avaient embrassée, et qui leur avait permis de devenir la deuxième puissance économique de la planète. Cette modernité-là, finalement, il y avait quelque chose qui manquait. Ils n'ont pas trouvé le bonheur. À la fin des années 80, ils se disent « on est la première puissance commerçante de la planète, la première puissance financière, la première puissance industrielle, la deuxième puissance économique. » Et tout ça nous a pas rendus plus heureux.
C'est la crise aussi qui bouleverse la modernité.
Oui, c'est la crise.
Ou la fierté de la modernité.
La crise économique, mais la crise morale, je crois, la crise des buts nationaux avait commencé avant. Et aujourd'hui, les Japonais, dans leur quête d'un nouveau modèle, se tournent vers le passé. L'article d'Atoyama, auquel vous faisiez allusion dans le New York Times, dans sa version intégrale, il est très intéressant parce qu'il est très archaïsant sur beaucoup de choses. Atoyama, par exemple, parle des associations de voisinage. Et Dieu sait que les associations de voisinage qui existaient à l'époque de Edo, précisément à l'époque du Japon fermé, sont une structure hyper traditionnelle du Japon.
C'est complexe parce qu'il fait aussi appel à d'autres sources. Par exemple, oui. aux Lumières, il parle du slogan « Liberté, oui. égalité, fraternité oui. ». Et plus récemment, je trouve ça intéressant, il explique que son grand homme, c'est Koudanov Kalergi, qui est dans les années 20, oui. lui-même mi-autrichien, mi-japonais, oui. et qui est un des prophètes de l'Union européenne. Et ce qui peut pousser le Japon à s'ouvrir davantage, notamment en Asie, dans le domaine monétaire. planétaire, dans le domaine politique.
Alors de ce point de vue-là, effectivement, Hatoyama pourrait aussi marquer une rupture. Bon, pas vraiment une rupture anti-américaine, parce que l'anti-américanisme, disons que aux élections japonaises, c'est un thème assez porteur. On peut penser qu'Hatoyama, enfin que les démocrates en tout cas, ont joué là-dessus parce que c'est quelque chose qui marche assez bien, mais qu'ils n'iront pas très loin. Ils vont renégocier avec les États-Unis le statut des bases américaines, puisqu'il y a des bases militaires américaines dans l'archipel ou ce genre de choses. Mais à mon avis, ils ne vont pas quand même aller très très loin. L'ouverture sur l'Asie, effectivement, avec la référence au modèle européen, qui est quelque chose de tout à fait nouveau, les Japonais n'ont jamais fait, est beaucoup plus intéressante.
L'idée d'une monnaie commune ?
Oui, tout en disant que ce n'est pas pour demain. Et effectivement, ce n'est pas pour demain, parce qu'il y a quand même une grosse question en Asie. C'est-à-dire, d'accord, on va faire une région, mais qui va être le patron ?
Affaire à suivre, affaire à suivre. Merci Jean-Marie Bouissou. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quand les sumos apprennent à danser », beau titre, avec comme sous-titre « La fin du modèle japonais », le sous-titre est plus sage, paru chez Fayard en 2003. Puis vous avez dirigé l'ouvrage collectif qui s'appelle « Le Japon contemporain », paru également chez Fayard en 2006. Vous avez préfacé aussi un livre d'Alan McFarlane qui est intéressant. Autrement, 2009, Énigmatique Japon, une enquête étonnée et savante. Vous m'avez dit que vous aviez hésité à préfacer ce livre.
Oui, parce que d'un côté, ce livre qui est écrit par quelqu'un qui ne connaissait pas le Japon et qui l'a découvert...
Ça rend plus libre pour en parler.
Oui, ça rend plus libre. Ça me semblait, à moi, qui prétend au titre d'expert, ça me semblait très naïf par beaucoup de côtés. Et puis je me suis, quand même, quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ce type a un regard, ce type sait voir les choses. Et même si je n'étais pas toujours tout à fait d'accord avec la manière dont il les interprétait, j'ai été tout à fait séduit par le regard et la forme aussi. Il écrit d'une manière très plaisante.
Il insiste beaucoup sur la permanence de la féodalité, d'une façon qui évidemment était Absolument. Utile pour notre émission et pour sa problématique. Je voudrais signaler le livre important de Philippe Pelletier, Japon, crise d'une autre modernité chez Belin et la documentation française en 2003. Et puis, c'est un sujet d'émission en soi. Vous êtes passionné, Jean-Marie Bouissou, par les mangas et vous allez publier prochainement Histoire et univers de la bande dessinée japonaise, manga, chez Philippe Piquier. D'où vient cet amour pour les mangas ?
Je suis fasciné par le manga parce que c'est le reflet de toute l'histoire du Japon, d'une part, et de tous les traumatismes historiques du Japon. Le manga est indissolublement lié à l'âme même du Japon. Le manga, il est plein de samouraïs, il y a une très forte veine du manga historique. Mishima, dont on parlait, Mishima adorait le manga de samouraïs. Il le plaçait très très haut dans l'échelle des arts, si je puis dire. Et en même temps, le manga est ouvert sur l'avenir, c'est-à-dire que c'est plein de robots, c'est plein de voyages spatiaux, c'est plein de mondes futurs. Et entre les deux, c'est plein de Hiroshima.
Donc nous ne quittons pas rupture et continuité, notre problématique un peu simpliste, mais néanmoins efficace. Vous retrouverez toutes ces informations et les références des documents sonores qui ont été utilisés par nous sur le site internet de France Culture, vous le savez, à la page Concordance des temps. Et vous pourrez bien sûr réécouter, télécharger cette émission pour balado-diffusion et réagir en ligne. Samedi prochain, je recevrai Jean Delumeau. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi j'ai choisi le thème qu'il va traiter avec nous, les peurs collectives entre Moyen-Âge et Renaissance. Il me semble que, malheureusement, ce thème n'est pas complètement frappé d'obsolescence. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, avec la collaboration de Meryl Moneghetti, avec Patrick Molinier, Sophie Bobert, Albert Sumo, et pour les archivinas, Catherine Louis.